Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Il est pile 19h ici à Paris.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Vous êtes au cœur de 3 heures d'information directe et en continu. Tout de suite, c'est le Grand Journal. Le Grand Journal, c'est avec vous, Adrien Delgrange. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Et au sommaire de cette édition internationale, ce tremblement de terre en Birmanie. Un séisme a secoué violemment le pays il y a quelques heures. Les dégâts sont très importants. Le nombre de victimes, toujours provisoire, est très élevé. Au moins 144 morts, 723 blessés, débordés. Les autorités birmanes en appellent à l'aide internationale. L'actualité mondiale, dominée aussi par la reprise des bombardements israéliens au Liban, l'armée israélienne a visé des quartiers peuplés du sud de la capitale Beyrouth. Indignation d'Emmanuel Macron qui recevait aujourd'hui à Paris le président libanais. Parmi les propositions de Vladimir Poutine pour tenter de régler le conflit en Ukraine, la création sous l'égide de l'ONU d'une administration transitoire pour gérer le pays, mais sans Volodymyr Zelensky. Nous irons aussi en Chine. Dans ce journal, Pékin cherche à relancer coûte que coûte une consommation chinoise en berne. Reportage à suivre. Et puis enfin, un plongeon dans les grands fonds marins grâce à Simon Rosé, ces grands fonds qui recèlent de nombreuses richesses et sont de plus en plus convoités. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
On entend ces scènes de panique au moment où la terre a tremblé dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est aujourd'hui.
Un séisme de magnitude 7,7 a d'abord secoué le centre de la Birmanie, puis des secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande où un immeuble en construction de 30 étages s'est effondré. Marine de la Moissonnière, bonsoir.
Bonsoir.
C'est en Birmanie que les dégâts sont les plus importants.
Oui, le bilan fait état pour l'heure de 144 morts et 732 blessés, un nombre qui devrait encore augmenter car dans ce pays secoué par une guerre civile depuis le coup d'État de février 2021. Les infrastructures sont en très mauvais état et les services de santé insuffisants. L'épicentre se trouve à 17 km de Mandalay, deuxième plus grande ville du pays. Heike Schmidt a recueilli le témoignage d'un moine de Mandalay.
Je suis sous le choc. Un séisme de magnitude 7,7. Je n'avais jamais vécu cela de toute ma vie. J'étais au deuxième étage d'un bâtiment qui en compte 6. Il n'y avait rien pour me protéger. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Tout l'immeuble a bougé. J'ai vu 3 ou 4 enfants gravement blessés. On les a conduits en urgence à l'hôpital en ville, mais il n'y avait pas de place. Donc on les a ramenés ici et on les soigne à l'infirmerie d'une école. Personne ne peut retourner dans son appartement. Tout le monde reste dehors, dans la rue ou dans les cours d'école. Tout le monde a peur et est inquiet. En plus, il n'y a pas d'électricité. J'espère qu'on est tous en sécurité.
L'inquiétude à Mandalay, donc, mais aussi ailleurs dans le pays. Pour l'instant, il est difficile de faire un état des lieux précis car le téléphone est coupé dans de nombreuses régions. Le régime a en tout cas déclaré l'état d'urgence dans les 6 régions les plus touchées. Preuve de la gravité de la situation, le chef de la junte birmane a appelé tout pays, toute organisation à venir aider les victimes.
Autre pays touché, Marine de la Moissonnière, la Thaïlande. Un gratte-ciel s'est effondré à Bangkok. Nous sommes là à environ 1000 km de l'épicentre.
8 personnes sont mortes et une centaine d'autres sont toujours piégées sous les décombres de cet immeuble de 30 étages qui était en construction. La secousse a provoqué des scènes de panique. Écoutez ce témoignage d'un habitant de Bangkok, joint par Heike Schmidt. Il prenait le café dans son appartement au 11e étage de son immeuble lorsque la terre a tremblé.
Moi, j'ai senti comme s'il y avait une fenêtre avait explosé et que tout bougeait avec un courant d'air. Alors, en fait, c'était le bâtiment qui bougeait tout seul, les portes qui basculaient. On était à 7,7 sur l'échelle de Richter et ça a duré pendant deux bonnes minutes. Et là, donc, on a décidé de descendre au rez-de-chaussée et sortir dans la rue. Ce que tout le monde a fait, en fait. C'est un immeuble qui a une trentaine d'années, qui en compte 30 étages. Il y a quelques débris sur une tour qui est à côté, plus récente. Quelques débris qui sont tombés. Et puis ici, tout le monde est dehors, en fait. Tous les bureaux ont été évacués, les écoles ont été fermées, les hôpitaux sont fermés. Là, il y a un hôpital pas loin de chez moi, des infirmières et personnels soignants sont dehors. Voilà, et les sirènes, ça sonne de partout. Et de mémoire de les quelques Thaïlandais avec qui j'ai discuté, on n'a jamais vu ça à ce niveau-là de mouvement. Les gens sont très, très apeurés. Mais oui, c'est vrai que là, on se demande ce qui peut se passer. Tout peut se passer, on n'en sait rien, quoi.
Ce soir, les parcs de Bangkok sont exceptionnellement ouverts toute la nuit pour accueillir ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Des habitants s'organisent pour apporter à boire et à manger aux sinistrés.
Et puis parmi les différents pays à répondre présent à l'instant, les États-Unis, par la voix de Donald Trump, annoncent envoyer de l'aide à la Birmanie. Merci Marine de la Moissonnière.
18h06 en temps universel, Israël a bombardé le Liban, ce qui n'était pas arrivé depuis maintenant 4 mois.
Des bombardements qui ont visé notamment les quartiers sud de la capitale Beyrouth, bastion du Hezbollah. Avec ces frappes, Israël dit avoir riposté à des tirs de roquettes vers son territoire. L'armée israélienne a ainsi violé le cessez-le-feu signé le 27 novembre dernier avec le Liban. C'est ce qu'a dénoncé aujourd'hui Emmanuel Macron, le président français qui recevait aujourd'hui à Paris le président libanais Joseph Aoun. Pierre-Olivier.
C'est depuis Paris que Joseph Aoun réagit à ce premier bombardement d'ampleur dans le sud de Beyrouth depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël fin novembre.
Malheureusement, nous venons de recevoir des nouvelles concernant le sud et Beyrouth, ainsi que le retour de l'escalade et des tensions et la reprise des agressions israéliennes contre notre pays. Nous rejetons toute attaque contre le Liban ou toute tentative suspecte et malveillante visant à replonger le Liban dans le cycle de la violence. Et plus encore, cela renforce notre détermination à bâtir notre pays afin de protéger le Liban et l'ensemble de son peuple.
L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir répondu à des tirs de roquettes en provenance du Liban, les deuxièmes en une semaine. Mais pour le président Joseph Aoun, il ne s'agit pas de tirs réalisés par le Hezbollah.
Concernant le lancement de roquettes la semaine dernière, l'armée libanaise est en train de mener son enquête pour savoir qui les a lancées. Une autre enquête va être ouverte aujourd'hui, mais notre précédente expérience et les preuves sur le terrain indiquent que le Hezbollah n'en est pas responsable.
De son côté, Emmanuel Macron a dénoncé des frappes israéliennes inacceptables. Il s'entretiendra de ce sujet avec son homologue américain et le premier ministre israélien.
Benjamin Netanyahou qui, par ailleurs, assure qu'Israël frappera partout au Liban contre toute menace.
La guerre en Ukraine, commentée par Vladimir Poutine.
Le président russe a ordonné à ses troupes d'envahir l'Ukraine. C'était il y a maintenant plus de 3 ans. Il exige toujours la reddition de l'armée ukrainienne. Il ne veut pas aussi que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Dernière exigence en date avant toute négociation de paix, le chef de l'État russe va jusqu'à proposer pour l'Ukraine une politique transitoire pour diriger le pays et le tout sous l'égide de l'ONU. RFI Moscou, Anissa El Jabri.
Vladimir Poutine se sent en position de force, il le répète souvent et encore cette nuit, sur toute la ligne de front, nos forces détiennent l'initiative stratégique, a-t-il déclaré, allant jusqu'à ajouter en faisant référence aux forces ukrainiennes, il y a des raisons de croire que nous les achèverons, fin de citation. Ces propos, le chef de l'État russe les a tenus assis à l'intérieur d'un sous-marin nucléaire, l'Arkhangelsk, qui est de la 4e génération, mis en service en décembre dernier. Les médias russes vendent ses capacités à tirer tout type de missiles en surface et sous l'eau. C'est entouré de son équipage que Vladimir Poutine a donc abattu une nouvelle carte. Il veut une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU et cela avant toute négociation sur un accord de paix. Le président russe ne mentionne jamais Volodymyr Zelensky qu'il ne considère pas comme un homologue. Les autorités russes, elles, usent toujours de ce vocabulaire choisi pour être méprisant et rabaissant le régime de Kiev. La proposition d'une Ukraine administrée par l'ONU est nouvelle mais le fond reste le même. Dans la liste de ses exigences, le Kremlin veut le départ du président ukrainien. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Il en sera largement question dans 20 minutes sur RFI.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités militaires de l'Alliance du fleuve Congo, la FCM-23, ont signé aujourd'hui avec les commandants des forces des pays de l'Afrique australe un accord de cessez-le-feu immédiat et le retrait immédiat des troupes à Goma. Selon le communiqué final, les troupes de la SADC pourront se retirer avec leurs armes et équipements. Le retrait de ces troupes s'effectuera donc, comme je vous le disais, d'abord à l'aéroport de Goma.
La consommation chinoise est en berne. Le Conseil d'État chinois cherche donc à y remédier avec un plan social d'action spéciale.
Exactement, hein, c'est ça. Philippe, proposé à toutes les régions du pays. Ce plan vise à stimuler la demande intérieure en augmentant les revenus, mais aussi en offrant une couverture sociale aux emplois précaires. Mais nombreux sont ceux qui ne trouvent pas cela suffisant. RFI Pékin, Cléa Broderst.
Dans les rues de Ohot, en Mongolie intérieure, les habitants écoutent d'une oreille sceptique les promesses de Pékin. Les mesures proposées telles qu'une augmentation des pensions de retraite ou la création d'un système de garde d'enfants subventionné ne suffisent pas pour Li, une jeune mère de famille.
Je pense qu'en fin de compte, ce sont les dépenses de la vie quotidienne qui comptent. C'est à cela que sert la majeure partie des dépenses d'une famille. Pour les familles avec enfants, il s'agit généralement d'acheter des vêtements, de payer des cours de soutien ou des cours extrascolaires, ainsi que la nourriture quotidienne et les frais divers. Je préférerais donc que les subventions soient concentrées sur les dépenses de la vie quotidienne.
Face à l'incertitude économique, les ménages préfèrent épargner plutôt que dépenser. Yue, une jeune femme sur le point de se marier, dit même ne pas vouloir d'enfants afin d'économiser davantage.
Honnêtement, de l'aide financière sur tout ce qui est pratique serait bienvenue. La plupart des gens ont déjà des appareils électroménagers maintenant, alors que peut-être que quelque chose pour la rénovation d'une maison serait utile. Après le mariage, on rénove ou on achète une nouvelle maison. Il nous faudrait une aide au logement.
À Ohot comme ailleurs, les habitants attendent des mesures concrètes pour relancer la consommation, mais surtout améliorer leur quotidien. Claire Broderst, Chosian Yuan, Ohot, RFI.
Venons-en à l'actualité en France à présent.
Accusé de féminicide, il avait tué, brûlé sa femme Chahinez Daoud. À l'instant, Mounir Bouta a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat en mai 2021 de son épouse qui vivait à Mérignac. Une peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. La peine est conforme aux réquisitions de l'avocate générale de la cour d'assises de Gironde.
Et puis cette décision des sages qui pourrait avoir des conséquences pour Marine Le Pen.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision sur l'avenir politique d'un élu de Mayotte. Les sages valident l'inéligibilité avec exécution provisoire de cet élu municipal. Victorien Villaume, cette décision est à mettre en perspective car elle pourrait préjuger de ce qui sera décidé au-delà du week-end dans le procès de Marine Le Pen.
Le Conseil constitutionnel l'affirme, rendre inéligible immédiatement un élu, même sans attendre le résultat d'un appel, est conforme à la Constitution. Mais en effet, cela n'a pas d'incidence sur Marine Le Pen, puisque dans leur décision, les sages se contentent de répondre strictement à la question posée qui concernait uniquement le cas des élus locaux. La chef de file du RN est une élue nationale. Ce dénouement était celui en tout cas auquel s'attendaient les proches de Marine Le Pen, et les regards sont maintenant tournés vers lundi. À cette date, Marine Le Pen connaîtra sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires. Le parquet requiert contre elle une peine d'inéligibilité avec la fameuse exécution provisoire et elle pourrait être empêchée de se présenter à la présidentielle de 2027. On va attendre lundi. Il n'y a rien d'autre à faire, balaye un député du parti d'extrême droite.
Les précisions de Victorien Villaume.
Et il en sera question bien évidemment dans Dimanche Politique après-demain. Dernier jour du Conseil des institutions de l'ONU qui ne compte pas parmi les plus connues mais au rôle pourtant essentiel.
C'est l'Autorité internationale des fonds marins. L'AIFM, où les négociations sont ardues depuis plusieurs années sur l'opportunité d'aller miner les grands fonds à la recherche de minéraux présentés comme essentiels pour la transition énergétique. Mais la pratique rencontre de plus en plus d'hostilité en raison des lourdes conséquences néfastes qu'elle entraînerait pour les écosystèmes des planchers océaniques, rares endroits encore préservés de l'activité humaine. Ces promoteurs n'entendent cependant pas abandonner, quitte à s'affranchir Simon Rosé du droit international.
La start-up canadienne TMC lorgne depuis des années sur les nodules polymétalliques. Ces boules de métal parsèment le plancher océanique à plusieurs milliers de mètres de fond dans les eaux internationales. Pour se lancer, l'entreprise a besoin que sa demande d'exploitation soit acceptée par l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, l'organisme onusien compétent en la matière. Cela fait maintenant plusieurs années que le sujet y est discuté et de plus en plus de pays se coalisent pour demander un moratoire sur la pratique. Fatigué d'attendre, TMC a donc annoncé vouloir se tourner vers les États-Unis et faire sa demande d'exploitation directement auprès des autorités américaines, bien que le projet ne se trouve pas dans l'espace maritime du pays, mais au milieu du Pacifique. Washington est en effet signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la haute mer, mais ne l'a pas ratifiée et n'est donc pas membre de l'AIFM. En clair, pour TMC, il s'agit de violer les règles internationales en se tournant vers un pays qui ne les reconnaît pas. Reste à voir quelle suite donnera l'administration Trump à cette sollicitation, mais déjà, Laetitia Carvalho, la patronne de l'AIFM prévient, cela saperait les principes fondamentaux du multilatéralisme.
Simon Rosé dans cette édition internationale, et puis enfin aux yeux de la justice espagnole. Le joueur de football Dani Alves n'est plus coupable de viol. La cour d'appel de Barcelone annule la condamnation à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone en 2022. L'ex-star du FC Barcelone est donc acquitté. La justice justifie sa décision car dans le premier jugement, il a été noté toute une série de manquements, d'imprécisions, d'incohérences et de contradictions des faits. Temps universel, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, la suite d'RFI Soir avec vous, Philippe Le Caplan.
C'était Adrien Delgrange qui revient à 20h pour d'autres informations. Vous parliez de foot, ben justement, on y revient. Victor Missistrano, le foot, c'est une trêve internationale qui est maintenant terminée puisqu'il y a le commencement ce soir de la 27e journée de Ligue 1 en France.
Oui, avec un match qui va compter dans la course à l'Europe. L'OL 5e se déplace à Strasbourg 7e. Chacune des deux équipes reste sur 3 victoires consécutives en championnat. Côté lyonnais, l'homme en forme s'appelle Georges Mikotadze. 7 buts et 5 passes décisives pour le Géorgien sur ses 4 dernières apparitions en club et en sélection nationale. Après des débuts plus compliqués, le buteur né à Lyon fait mieux que seconder le capitaine Alexandre Lacazette pour le plus grand plaisir de son entraîneur Paulo Fonseca.
Georges est un bon moment, il a joué très bien dans la nationale, il est très, très motivé. Je suis très content parce que nous avons des attaquants différents pour jouer différents matchs. Alex a joué bien, il n'a pas marqué, mais il a joué très bien les derniers matchs. Nous avons aussi Georges avec différentes caractéristiques, mais un bon moment, un bon problème pour moi.
Le Portugais Paulo Fonseca qui fait donc face à un problème de riche à Lyon avec ses deux avant-centres performants, et c'est bien Mikotadze qui va débuter ce soir ce Strasbourg-Lyon, c'est dans environ 1h30.
Et pendant ce temps-là, il y aura du foot en Allemagne. Là-bas, la bataille pour le titre n'est pas encore terminée.
Oui, c'est un peu différent d'en France où là, le Paris Saint-Germain file vers le titre. En Allemagne, en Bundesliga, le Bayer Leverkusen n'a pas dit son dernier mot derrière le Bayern Munich qui fait la course en tête et qui a éliminé le Bayer en Ligue des Champions. Sensation de la saison dernière, les tenants du titre sont à 6 points des Bavarois. Ils reçoivent ce soir Bochum qui se bat de son côté pour le maintien. L'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ne compte pas abdiquer de sitôt.
Notre objectif est clair, être à la lutte jusqu'au bout. La première chance de réduire l'écart à 3 points, c'est ce soir. Nous voulons mettre le plus de pression possible. Nous savons que Bochum nourrit aussi de grandes ambitions, mais nous sommes vraiment concentrés. Mardi, nous jouerons la demi-finale de la Coupe d'Allemagne, mais ensuite, il n'y aura plus que la Bundesliga. Nous devons presque tout gagner pour avoir une chance. Nous voulons prendre les choses au fur et à mesure, mais les 4 prochains matchs seront déterminants. Après ça, nous attendrons et nous verrons.
Xabi Alonso avant ce déterminant, donc Bayer Leverkusen Bochum, c'est dans un peu plus d'une heure. Toujours en football, une bonne nouvelle, le retour de Jean-Philippe Mateta, un mois après l'énorme choc subi par l'attaquant de Crystal Palace en Angleterre. Il avait dû avoir recours à 25 points de suture au niveau de son oreille gauche. Le Français revient dans le groupe de son équipe pour un quart de finale de Cup demain contre Fulham.
Voilà pour le football, un monde tennis avec le tournoi de Miami qui se poursuit et place aux demi-finales.
Oui, dans quelques minutes va s'avancer Novak Djokovic après des semaines un peu plus compliquées. Le Serbe est de retour en forme en Floride. Il affronte le Bulgare Grigor Dimitrov. L'autre place en finale se jouera entre le Tchèque Jakub Mensik et l'Américain Taylor Fritz. Pour rappel, dans le tableau féminin, la finale aura lieu demain entre la Biélorusse Arina Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula.
Et puis Victor Missistrano, vous allez certainement lire ce week-end le magazine L'Équipe, dont vous êtes le rédacteur en chef adjoint, Jean-Michel Brochen. En couverture, votre couverture est consacrée aux 25 ans de la nomination du film Fight Club, c'était aux Oscars, un film qui est devenu culte. Hein.
Oui, c'est un film qui n'a pas eu une très bonne presse à sa sortie, mais qui, 25 ans après sa nomination aux Oscars, est devenu un film culte, et pas simplement dans l'univers des sports de combat ou des salles de sport, qui est la raison pour laquelle nous, à l'équipe, on s'intéresse à ce film, mais dans le monde politique, dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde de la jeunesse aujourd'hui. Il y a plein de choses dans ce film sur la masculinité toxique, sur des références un petit peu politiques qui font que ce film est aujourd'hui très apprécié par beaucoup de monde.
Mais est-ce qu'il n'a pas été relancé par le fait que bah, finalement Fight Club c'est du MMA quoi avant l'heure?
Oui, effectivement, comme je disais, c'est à la fois un film qui est très présent dans l'univers des sports de combat. Et d'ailleurs, dans les salles de sport, souvent, il y a les affiches de Fight Club où on voit Brad Pitt torse nu au moment d'un combat. C'est la couve d'ailleurs du magazine de demain. Mais finalement, l'univers du MMA, les gens du MMA, les entraîneurs de MMA qu'on a interrogés pour ce sujet se désolidarise un petit peu du film, parce qu'ils disent le MMA, finalement, il y a quand même des règles, c'est un univers assez normé, on fait pas n'importe quoi, alors qu'effectivement, la liberté totale de combat est, dans le film, bon, ils font n'importe quoi, les combats, c'est vraiment, c'est sanglant, et c'est à celui qui est le plus fort, il y a aucune règle qui est respectée, et quelque part, les spécialistes du MMA s'en désolidarisent un petit peu aujourd'hui.
Autre chose, c'est une rencontre avec la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Qu'est-ce que ça vient faire dans le magazine L'Équipe ?
Oui, Agnès Callamard, aujourd'hui, est secrétaire générale d'Amnesty International et elle nous parle du sport washing, c'est-à-dire de la manière dont aujourd'hui des États, des organisations se servent du sport et de son audience pour un petit peu dissimuler ou faire oublier leur bilan déplorable en matière de droits humains.
Et par exemple ?
Par exemple, elle cite bien entendu l'Arabie Saoudite, hein, qui aujourd'hui est un peu le numéro un en la matière, si j'ose dire, puisque l'Arabie Saoudite va organiser le mondial de football en 2030, essaye d'organiser d'être candidat pour les Jeux Olympiques, va également très présent dans le football, dans le golf, dans un tas d'univers sportifs.
Oui, il y a Ronaldo qui joue d'ailleurs, elle le dit, hein, si Ronaldo va jouer en Arabie Saoudite, qu'il en profite pour exhiber voilà. Les photos des opposants emprisonnés.
Alors, il fustige les États, les organisations comme la FIFA ou le CIO, mais également les sportifs, effectivement, vous avez raison, qui, comme Ronaldo, dans ces championnats, vont gagner des sommes monumentales, hein, mais encore plus que ce qu'on imagine en Europe. Et qui à aucun moment n'en profite de leur exposition pour dénoncer un peu bah, les actes de torture. Elle rappelle quand même le triste destin de Jamal Khashoggi, ce journaliste qui a été découpé en morceaux par le régime saoudien.
Tout autre chose avec des rencontres et deux portraits. Tout d'abord du cyclisme avec le portrait d'un participant à Paris-Roubaix. Alors c'est un peu le régional de l'étape, comme on dit. Enfin, sauf que c'est pas une course à étape, hein. Ça dure une journée. Car il est natif de Boulogne-sur-Mer et il est plutôt jeune.
Oui, il s'appelle Samuel Leroux, il a 30 ans. Il a une carrière de cycliste professionnel qu'il a effectuée dans des équipes qui n'étaient pas suffisamment bien classées au classement mondial pour pouvoir participer aux grandes classiques, notamment Paris-Roubaix. Et lui, comme il est natif de Boulogne-sur-Mer, quand il était enfant, il allait avec ses parents, ses grands-parents, au bord de la route, voir passer les coureurs près de la tranchée d'Arenberg. Donc à 30 ans, il va enfin participer à la course de ses rêves. Alors, il nous raconte, il sait qu'il sans doute il la gagnera pas, sauf exploit qui s'est déjà produit dans l'histoire, mais rien que le fait de participer à la course, pour lui, c'est extraordinaire.
Et puis, une autre rencontre avec Maxime Reynaud, ça se passe aux États-Unis. Il s'agit d'un basketteur universitaire, hein, il évolue en Californie. Alors, le titre de votre article aurait pu s'intituler « La tête et les jambes ».
Oui, alors on a mis « tête de raquette », c'est un petit jeu de mots par rapport à une position sur le parquet de basket. Mais effectivement, Maxime Reynaud, il est en troisième année à Stanford de mathématiques, d'informatique appliquée à l'intelligence artificielle. C'est une tronche, comme on dit, hein, mais c'est également un excellent joueur de basket, puisqu'il va se présenter à la draft NBA à l'issue de ses trois années avec l'université au mois de juin. Bon, pour mémoire, les deux dernières drafts NBA, le numéro un, c'était un Français à chaque fois, Victor Wembanyama en 2023, Zachary Risaché en 2024. Donc lui, Maxime Reynaud n'aura pas ce destin-là. Il sera peut-être sélectionné aux alentours de la 30e ou de la 40e place. Mais bon, son parcours est déjà extraordinaire dans la mesure où il a été élu meilleur étudiant sportif de l'année en université américaine. C'est-à-dire le mix de capacités sportives et de capacités universitaires.
Et puis, le portfolio consacré à Taïwan avec un reportage dans un pensionnat qui abrite des jeunes qui jouent au baseball et qui espèrent bien avoir un futur dans ce sport.
Oui, alors le photographe qui s'appelle Nicolas Datiche a suivi pendant 6 mois la vie de ces jeunes d'un pensionnat du sud-est de Taïwan qui accueillent essentiellement des enfants qu'on appelle des enfants aborigènes. Hein, c'est des enfants, des natives, comme on dit, de Taïwan. C'est une population qui représente à peu près 500 000 personnes sur 23 millions d'habitants à Taïwan. Ce sont des gens qui vivent dans les montagnes, qui sont souvent déshérités, qui ont une espérance de vie un peu moins forte. Et ils envoient leurs enfants dans ces pensionnats où on pratique le baseball, qui est un sport national là-bas. Taïwan a été 2 fois médaillé olympique en baseball, et avec l'espoir d'une vie meilleure. Alors c'est basé sur une discipline de fer, c'est basé sur beaucoup de sport, mais aussi beaucoup de respect, d'obéissance. Donc c'est pas une vie très facile, mais pour eux c'est quand même l'espoir d'une vie meilleure.
Et c'est donc à voir et à lire, Jean-Michel Brochen, dans votre magazine, le magazine L'Équipe. RFI vous emmènera en Chine dans quelques instants.
RFI, la sélection du mois.
Émilie Marche.
J'attendais pas à vivre un tel été en deux, comme deux cœurs coupés en deux.
Jusqu'à ce qu'on soit cabossé.
Pascala et le Super Mojo.
On veut pas venir au boulot, mais mettre les pieds dans l'eau.
On va pas bosser. Ah ouais.
RFI Musique.
On ne fait rien dans la vie.
Il est 2h25 en Chine.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
En Chine, où le taux de chômage des jeunes est tombé à 16% après avoir atteint un pic de 19% en août. Avec plus de 12 millions de jeunes sortant de l'université, le fossé se creuse entre les attentes des demandeurs d'emploi et les opportunités. Claire Brodeust est allée à une foire de l'emploi à Pékin.
Organisée dans un centre commercial, cette foire réunit une centaine d'entreprises. Ici, des milliers de jeunes chinois, CV en main, parcourent les différentes allées. Yue, jeune diplômé de 22 ans, estime qu'il est bien plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi aujourd'hui que pour les générations précédentes.
Nous sommes nombreux et le coût de la main-d'œuvre a diminué. Cela, combiné au nombre limité de postes, rend la tâche plus difficile pour les personnes ayant un niveau d'éducation similaire au mien. Et puis le report de l'âge de la retraite a un impact sur l'emploi. Il n'y a pas beaucoup de place et tous les postes sont déjà occupés. La plupart des postes disponibles sont dans le domaine de la vente, ce qui ne correspond pas vraiment à ce que je recherche. Mon autre préoccupation, c'est de savoir si une entreprise est digne de confiance ou non.
Li, une jeune mère de jumeaux, espère pouvoir revenir sur le marché du travail après un long congé maternité.
Je travaillais dans le domaine juridique, mais il n'y avait personne pour s'occuper de mes jumeaux à la maison, alors j'ai dû démissionner. Aujourd'hui, les employeurs s'intéressent d'abord à l'âge. Les premières conversations se passent bien, mais dès qu'ils entendent mon âge, ça devient un peu gênant.
Et elle trouve que c'est un énorme défi à relever.
Je le comprends très bien du point de vue de l'entreprise, c'est logique. Mais du point de vue d'une femme, c'est vraiment difficile. Les femmes apportent toujours une contribution silencieuse, qu'il s'agisse des tâches ménagères invisibles ou de la prise en charge des enfants. Et bien sûr, les entreprises vous demanderont « Que ferez-vous de vos enfants ?» Si vous avez un enfant, ils vous demanderont si vous avez l'intention d'en avoir un autre. Et si vous en avez deux, ils supposent que vous n'en aurez probablement pas d'autres.
Chen est allé à plusieurs foires à l'emploi sans succès. Ce jeune homme de 23 ans espère que le gouvernement va mettre les bouchées doubles pour aider la jeune génération.
Je suis déçu, très découragé. Le taux d'emploi des jeunes diplômés est assez bas en ce moment et la pression est intense. Si vous ne vous préparez pas aux études supérieures, vous vous préparez aux examens de la fonction publique qui sont encore plus stressants. Pour ceux qui essaient de trouver un emploi directement, c'est encore plus difficile. J'espère que le gouvernement ou les écoles pourront organiser davantage de salons de l'emploi, peut-être plus fréquemment dans les écoles ou dans la société. S'il pouvait y avoir 2 ou 3 grands salons de l'emploi par mois, cela nous donnerait plus de chances de trouver du travail.
Le chômage des jeunes en Chine a de lourdes conséquences, à la fois sur l'économie et sur la société. Et face à ces défis, Pékin reconnaît l'urgence de réformer le marché de l'emploi en misant sur plus d'opportunités de travail, des aides financières telles que le remboursement d'assurance chômage ou la baisse d'impôts, et enfin un soutien à l'entrepreneuriat. Claire Broderst, Chosian Yuan, Pékin, RFI.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce chef d'entreprise a traversé toute l'histoire récente de la RDC, dont il dirige l'un des plus grands groupes privés. Le Belge Georges-Arthur Forest, 85 ans, pense que l'Afrique peut nourrir le monde. Le vice-roi du Katanga, tel qu'il est surnommé, est notre invité exceptionnel.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, on danse sur tous les sons, sans façon, et on découvre même le concept congolais de danser sans transpirer. Et on éloigne la haine avec le rituel de l'artiste vénézuélienne Rebecca Roger Cruz. Êtes-vous prêts seulement ?
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.